Vous êtes sur RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Bonne journée à vous tous qui écoutez RTL, il est 7h45, Alba Ventura, vous recevez donc ce matin Côme Guirchic, qui est le représentant de la France lors du sommet de la jeunesse pour le climat.
Bonjour Côme Guirchic.
Bonjour.
Je devrais dire bonsoir, merci, parce que je précise qu'il est presque 2h du matin à New York. Alors, vous avez participé samedi au sommet de la jeunesse pour le climat organisé par l'ONU. Vous faites partie des 500 jeunes du monde entier à avoir été choisis. Vous avez l'impression d'avoir été entendu ou d'avoir été des faire-valoir ?
Pas du tout.
Pas du tout quoi.
J'ai pas du tout eu le sentiment d'avoir été entendu, tout simplement parce que j'ai pas pu parler.
Ah.
Et je trouve ça extrêmement dommage d'avoir organisé un tel sommet qui a sûrement émis plusieurs milliers de tonnes de CO2 pour faire venir tous ces gens du monde entier, pour finalement ne pas pouvoir parler une seule seconde parce qu'il n'y avait que des séances de présentation. Et j'en ai fait part tout à l'heure à la ministre de l'Environnement qui était venue à New York à la mission permanente, et je lui ai expliqué que voilà, j'étais extrêmement déçu de ce processus.
Donc vous avez dit à Elisabeth Borne, si je comprends bien, je suis extrêmement déçue, nous les jeunes, on ne sert à rien dans cette affaire-là.
Non, c'est pas qu'on sert à rien, c'est que la procédure qui a été celle de ce sommet a été vraiment, je pense, mal pensée. Mais voilà, c'est la première fois que ce sommet a été organisé. Il a été organisé à l'initiative d'Antonio Guterres. Je pense que ce serait très bien de le refaire, mais en prévoyant véritablement des temps d'échange.
Alors, vous avez prévu quand même d'apporter des solutions concrètes lors de ce sommet. Quelles sont-elles ?
De mon côté, j'avais envie de parler de plusieurs choses. La première, c'était la question des limites planétaires. Pour moi, c'est une question qui est essentielle. La notion de limite dans le droit public n'existe pas encore.
Ça veut dire quoi, limite planétaire ?
Eh bien, on vit dans un environnement qui est tout simplement limité par plusieurs critères environnementaux, comme le CO2 dans l'atmosphère, comme le phosphore, comme les nitrates, comme etc. Et tout ça, en fait, il faut à un moment ou un autre qu'on l'intègre comme socle dans lequel on agit, notamment dans lequel s'inscrit notre économie. Et pour l'instant, cette notion de limite n'existe pas. Donc j'avais envie de l'apporter comme une sorte de première étape. La première étape étant ce droit international soft, puisqu'il s'agirait plus d'une sorte de réseau.
Mais puisque vous parlez de limites de CO2, tiens, je vous pose une question très directe. Est-ce qu'il faut une nouvelle taxe carbone en France ?
Je pense que oui, la taxe carbone, c'est un outil qui sera utile à la transition. Je pense par contre qu'il faut absolument repenser le mode de redistribution des recettes. J'avais eu la chance de pouvoir en débattre avec François de Rugy récemment à la télé, et j'avais expliqué en fait que pour moi le plus gros problème, c'était pas le fait qu'elle soit prélevée, mais le fait que la redistribution soit absolument absente, c'est-à-dire qu'il y a une très mauvaise transparence sur la trajectoire de ces recettes. Et moi, je pense que le scénario optimal, en fait, ce serait de redistribuer à minima 70% de ces recettes aux 5 déciles de la population les moins aisés.
Oui, aux plus fragiles, aux plus précaires.
Exactement, oui. Parce qu'il y a en fait une corrélation parfaitement positive entre les émissions de CO2 et la richesse.
Ça a donné la crise des gilets jaunes, vous le savez bien, la taxe carbone.
Il n'y a que, en fait, au moment où la crise des gilets jaunes est apparue, les deux tiers de la hausse étaient liés au cours du baril. Mais effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a réalisé que la taxe carbone, en fait, existait, mais ça faisait depuis 2014, en fait, qu'elle augmentait progressivement. Mais c'est normal que ça ait nourri des tensions aussi fortes. C'est tout simplement que la communication autour de ça a été très, très, très mauvaise, je pense.
Oui.
Et aussi, encore une fois, que les modalités de redistribution étaient complètement absurdes.
Mais comme Guirchic, vous diriez aujourd'hui que les solutions, elles doivent venir de qui ? Des politiques ou des entreprises ?
Je pense que les entreprises ne seront jamais motrices du changement. Par contre, elles pourront optimiser. Je pense que les entreprises sont avant tout des machines à optimiser dans un certain cadre. Et c'est aux politiques de penser le cadre, et c'est aux entreprises d'optimiser au sein de ce cadre.
Vous avez confiance dans les politiques. Est-ce que vous êtes notamment venu dire à Emmanuel Macron que la France était un bon élève à ce sommet climat ?
Oula, non, pas du tout, non. Justement, j'espère pouvoir échanger brièvement demain avec le président qui va se rendre donc au sommet de l'action climatique.
Quel est le message que vous voulez lui adresser, justement ? Je vous disais cela parce que effectivement, le Haut Conseil pour le climat dit que la France fait des efforts, mais pas suffisamment. Le président Macron, c'est des s'est présenté en défenseur de la forêt amazonienne, mais on octroie toujours des permis d'exploitation des mines d'or. On continue d'importer du soja d'Amérique du Sud pour nos élevages. On continue d'acheter à l'Asie de l'huile de palme pour alimenter, par exemple, la raffinerie bio de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Donc, quel message vous allez lui adresser au président français ?
Je pense que tout comme beaucoup de personnes actuellement font preuve de dissonance cognitive, c'est-à-dire sont persuadées d'un problème mais n'agissent pas pour le résoudre parce qu'ils sont trop ancrés dans leurs habitudes, je pense que le président a un peu le même problème dans la gestion de ses ministères et qui fait preuve d'une forme de taylorisme politique. C'est-à-dire
il tient un double discours, c'est ce que vous dites.
Ben, chaque ministère en fait se spécialise dans forcément son domaine. Du coup, le ministère de l'économie n'écoute pas assez le ministère de l'environnement, et d'ailleurs le ministère de l'environnement n'est jamais prioritaire dans les accords de libre-échange qui sont contractés via l'Union européenne. Et je pense que ça, c'est un problème immense. Dans tous les accords de libre-échange, l'environnement n'est absolument pas une priorité. On veut nous faire croire que le libre-échange désormais nous permettra de diffuser les normes environnementales européennes. Ils appellent ça les accords de troisième génération. Moi, j'y crois pas du tout. Je pense que pour beaucoup de raisons, le libre-échange, en tout cas tel qu'il est pensé sur les denrées du quotidien, les biens agricoles, etc., est néfaste à plusieurs points de vue et pas uniquement en termes d'empreinte carbone.
Est-ce qu'il faut suivre, à votre avis, l'exemple allemand ? Vous avez vu qu'Angela Merkel a annoncé un plan à 100 milliards avec un objectif de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est un bon élève, l'Allemagne, à votre avis ?
Je ne dirais pas que l'Allemagne est un bon élève, non, mais il ne faut pas non plus imaginer que tout passera uniquement par de la finance. Il y a aussi un changement de comportement infusé, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup défendu les questions d'éducation notamment. Il y a vraiment une réforme, enfin il faut repenser la façon tout simplement notre rapport à la consommation, et ça ne passera pas que par de la finance. Il faut aussi comprendre...
Ouais. Vous savez, comme Gershing, on parle de l'Allemagne, ils font quand même de l'électricité avec des centrales à charbon. Si on compare les taux d'émission de CO2 par kilowattheure, c'est ce que tout le monde fait en ce moment. Tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a de la confusion dans la tête des gens. La France émet 50 grammes de CO2 par kilowattheure. L'Allemagne, c'est 10 fois plus. Finalement, les gens sont en train de se dire quoi ? Que le nucléaire, c'est une énergie propre ?
Ah bah, du point de vue du CO2, le nucléaire est une énergie relativement propre, puisqu'elle émet environ quelques grammes de CO2 par kilowattheure. Mais le problème, c'est qu'on ne vit pas dans un monde avec un seul problème qui est le CO2. Il y a beaucoup d'autres problèmes, il y a beaucoup d'autres gaz, les déchets nucléaires. Enfin, on ne peut pas réduire la crise écologique actuelle uniquement à la question du CO2, et c'est bien ça le problème. On a appris à réfléchir à des problèmes à périmètre très restreint, et maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver des solutions holistiques qui répondent à tous les problèmes, à la fois l'érosion des sols, l'érosion de la biodiversité...
Problème holistique, vous nous expliquez ?
Ben, un problème avec des contraintes de plusieurs types. L'érosion de la biodiversité, par exemple, l'agriculture fait face à plusieurs problèmes à la fois, à l'érosion des sols, à la dispersion des nitrates, à la réduction des nappes phréatiques, au changement climatique, à la perte de biodiversité. Et tout ça arrive en même temps parce qu'on a exercé une pression trop forte sur toutes ces composantes de notre environnement. Et donc les conséquences arrivent en même temps. Et si on ne pense que au climat lorsqu'on fait de l'agriculture, eh ben, on va probablement oublier la biodiversité. Si on pense que à l'eau, on va probablement oublier le climat, etc.
Mais c'est donc, ça, les problèmes sont divers et ça provoque effectivement ce que je vous disais, pas mal de confusion. Comme Gershing, en France, on a l'impression que les jeunes ne se sont pas vraiment mobilisés. 10 000 personnes pour la marche climat, pour les jeunes, hein. 80 000 à Berlin, ça fait quand même une grosse différence.
Oui, c'est une différence immense et je suis dans des mouvements qui ont été très mobilisés en mars dernier, etc. Enfin, dans toutes les marches climat qui ont eu lieu. C'est vrai que c'est extrêmement décevant. Je pense que la jeunesse est en partie démobilisée parce que il n'y a peut-être pas suffisamment d'écoute de la part des ministères. Je pense qu'il est temps de passer véritablement à la seconde vitesse. Et c'est pour ça qu'avant de partir à New York, j'ai autant que possible essayé d'appeler la jeunesse française, non pas à toquer à la porte du politique, mais à essayer de devenir politique, à s'engager politiquement.
Mais parce qu'en fait, on a... Est-ce que l'écologie, c'est pas un truc de privilégié chez les jeunes ? Qu'est-ce que vous dites aux jeunes de 24 ans qui travaillent à 50 km de chez lui, qui a deux gosses et qui ne va pas forcément penser à s'acheter une voiture électrique ?
C'est une question très compliquée et évidemment il s'agit toujours de parler de transition juste, et à ces personnes-là je dis que le travail n'est pas forcément, en tout cas leur travail n'est pas forcément quelque chose qui a vocation à durer, tout comme le travail, je sais pas, des personnes qui font du conseil ou de la banque, etc. C'est un changement véritablement en profondeur, et si on continue à penser Je veux dire, on peut pas imaginer le travail comme seul facteur d'intégration sociale, c'est pas durable. On peut pas tenir socialement uniquement par de la croissance. Et évidemment, c'est quelque chose qui est difficilement audible aujourd'hui, mais pourtant, il faudra bien passer par ce type de débat-là. Donc je dis à cette personne de 24 ans qui travaille dans une usine, venez débattre. Parce qu'il y a vraiment des choses à faire et que cette usine-là va probablement fermer bientôt pour plein de raisons différentes, entre autres pour des raisons écologiques. Donc il faut tout de suite débattre et engager une véritable transition politique profonde.
Merci Côme Guerching et bon courage. Et merci à Philippe Corbet qui était là pour assurer la réalisation de cette interview.
En direct de New York, Côme Guerching, je le rappelle, qui est le représentant de la France lors du sommet de la jeunesse pour le climat. Dans un instant, le représentant...